Groupe Polysécur, épisode très spécial puisque c'est le 300e épisode diffusé. J'ai profité de cette occasion-là, de ce signe-là en tant qu'humain, on aime bien les symboles, de 300e chiffre rond, pour souligner cette aventure-là qui a débuté fin 2020 sur le comptoir de ma cuisine avec un de mes amis avec qui on a discuté autour d'une bière et qui a donné naissance à ce podcast-ci. Malheureusement, il n'a pas pu contribuer comme à cet épisode-ci, mais c'est un collaborateur très assidu. Pour marquer le coup de ce 300e épisode-là, puis de souligner dans le fond que toutes ces personnes qui ont contribué à cette aventure-là, qui dure depuis un peu plus que 2 ans maintenant, 2 ans et demi à peu près, j'ai sollicité mes collaborateurs du premier jour jusqu'à maintenant de me produire un petit segment sur ChatGPT qu'au moment de l'enregistrement est un peu une discussion un peu polarisante qui amène des réflexions autant philosophiques, technologiques, sécurité sur où on s'en va en tant que société. Donc j'ai compilé ces 5 personnes-là qui ont gentiment voulu donner un peu de leur temps pour contribuer à cet élément-là. Ces capsules-là sont fort intéressantes. Je vous invite à les écouter. On va probablement, avec certains de ceux-ci, revenir avec le sujet de ChatGPT, Generative AI, et ainsi de suite, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Justement, on va approfondir ces éléments-là sur les impacts de sécurité sociétaux et voir comment ceux-ci vont évoluer nos choses. Fait que je vous laisse les écouter, contribuer si vous voulez à travers les différentes plateformes, autant sur LinkedIn auquel justement sont annoncés ou les différentes Facebook aussi également, dans lesquelles on peut discuter, Mastodon. Venez discuter avec nous parce que c'est quand même celui-ci un sujet très très intéressant parce qu'il va venir avoir beaucoup d'influence sur notre année. Fait que je vous laisse avec ces 5 collaborateurs-là qui ont bien voulu contribuer à cet épisode tout spécial. Merci énormément.
Je suis Emeline Manson, fondatrice de Cyclic et formatrice en prévention des fraudes en cybersécurité. Je vais structurer mes idées en 3 catégories. D'abord, l'IA dans un contexte de cybersécurité et détection des attaques. Ensuite, l'IA dans un contexte de métier en cybersécurité. Et dans un dernier temps, l'IA en dehors du contexte de la cybersécurité. Je pense d'abord que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important dans le domaine de la cybersécurité, un rôle autant positif que négatif. Je pense qu'elle peut être utilisée pour détecter les attaques, pour détecter les intrusions, pour analyser les vulnérabilités des systèmes, identifier les schémas d'activité suspects, malveillants et même pour potentiellement renforcer la sécurité en automatisant certaines tâches. Par contre, j'en trouverai aussi des défis. Je dis souvent que les fraudeurs et les pirates informatiques sont des personnes créatives et innovantes. Il va falloir s'attendre à ce que ces personnes-là aussi exploitent les vulnérabilités des systèmes d'IA pour tromper ou même contourner les mécanismes de détection. Donc, il faut s'attendre à des messages d'hameçonnage plus raffinés, par exemple, sans faute d'orthographe ni erreur de syntaxe. Et ça, c'est déjà des choses qu'on voit. Je suis convaincue de l'importance d'avoir une approche globale de la cybersécurité en utilisant l'intelligence artificielle comme un outil complémentaire aux autres mesures de sécurité déjà existantes, parce qu'au même titre qu'un antivirus ou un VPN tout seul n'est pas suffisant pour prétendre être en sécurité, on ne peut pas non plus prétendre que l'IA va être la réponse à tous nos malheurs. Donc je prêche pour ma paroisse, mais la formation continue des équipes et la surveillance constante des systèmes reste selon moi cruciale pour faire face aux menaces émergente. Pour ce qui est des métiers de la cybersécurité, on peut légitimement se demander si l'automatisation et l'adoption généralisée de l'IA pourraient avoir un impact sur le marché du travail en cybersécurité. Et après tout, on parle de perturbations dans certains secteurs d'activité, pourquoi pas en cybersécurité aussi. Donc l'IA peut nous aider, je pense, et je suis pas mal convaincue, en fait, même à automatiser certaines tâches répétitives, des tâches routinières, ce qui peut nous libérer du temps, ce qui peut nous libérer des ressources précieuses. Par contre, la popularité des métiers de la cyber dans les dernières années fait en sorte qu'on a eu une vague de nouveaux professionnels dans le domaine et je m'inclus clairement là-dedans. Quand j'ai découvert le crime sur Internet, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant et j'ai sauté les 2 pieds joints. Mais parmi ces nouveaux professionnels sur le marché du travail, certaines se démarquent par leur excellence, tandis que d'autres personnes sont simplement considérées comme bons Et je mets bon entre guillemets, je dis pas ça de façon négative, hein. Ces personnes ont apporté une contribution énorme et précieuse, ont contribué à la cybersécurité telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, avec l'arrivée de l'IA, le statut de bon professionnel, selon moi, sera plus suffisant parce que l'IA remplacera progressivement les professionnels de ce niveau en automatisant leurs tâches et leurs fonctions. Et le défi que j'entrevois, c'est que pour se démarquer, il va falloir devenir meilleur que jamais. Et on va devoir se concentrer sur des tâches plus complexes, plus stratégiques, en développant des compétences hautement valorisées qui nous démarqueront et qui pourront pas être facilement reproduites par l'IA. Donc, va aussi être important de rester suffisamment flexible pour compléter, pour collaborer avec l'IA à mesure qu'elle évolue. Donc, c'est mon petit point de vue par rapport à ce deuxième volet. Et pour terminer, en dehors de la cybersécurité, l'IA soulève quand même aussi beaucoup de questions éthiques assez complexes et qui me dépassent moi-même, je l'admets, notamment en ce qui concerne la prise de décision automatisée, la confidentialité des données, comment vont évoluer les normes éthiques. On voit déjà que les réglementations s'adaptent, hein, mais j'ai quand même déjà hâte de réécouter cet épisode dans un an pour voir comment chacun de nos points de vue aura évolué. Merci.
Salut, je suis Jean-Luc Doumont de l'entreprise Doumont 360, une firme de relations publiques et de gestion de crise. Donc, pour ChatGPT, voici ce que j'en pense après que je l'ai testé à maintes reprises. Ça ne m'impressionne pas actuellement parce que la finesse des recherches n'est pas à la hauteur des attentes qu'on aurait pu s'attendre. Il faut savoir que ChatGPT a un retard de mémoire, on va dire, de 3 ans. Donc, si vous posez des questions précises sur ce qui s'est passé durant les 3 dernières années, ChatGPT ne va pas être si intelligent que ça. Est-ce que c'est un outil qui va être peaufiné? Oui, parce que plus qu'on va alimenter cet outil, plus que ses réponses vont nous aider à améliorer l'ensemble de la collectivité. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est un outil avant tout et pas une solution. Moi, j'entends dans les entreprises qu'on me dit que ChatGPT va être la solution à certains de leurs problèmes. Moi, je mets vraiment un bémol là-dessus. C'est un outil, mais pas une solution. Et ça, il va falloir qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent faire la différence dans l'utilisation de ChatGPT. L'intelligence artificielle va être beaucoup améliorée avec cet outil parce que on voit que Microsoft développe quelque chose, que ça va être intégré directement à Word. Est-ce qu'on va avoir des modèles de lettres? Est-ce qu'on va avoir des choses qui vont être intégrées avec la suite Office? Avec le ChatGPT, oui, et ça va être tant mieux. Il ne faut pas voir cet outil comme comme quelque chose de contre, mais il va falloir plutôt travailler avec. Et ça, c'est l'avenir nous le dira. Merci.
ChatGPT, ce n'est pas une surprise. C'est le genre d'intelligence artificielle auquel on s'attendait depuis longtemps. Néanmoins, le vide qui entoure cet outil, parce que c'est un outil, est assez impressionnant. Il aurait pu être anticipé, très sincèrement, de manière différente, de manière juridique, de manière éducative, sociale, etc. C'est effectivement un outil. Et comme tout outil numérique, il ne faut pas oublier qu'un outil, on apprend à s'en servir. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que les personnes ont commencé à confier à cette intelligence artificielle des choses pour qu'elle le fasse à leur place, avec cette problématique que les personnes vont déléguer complètement leur activité à cet outil, en omettant que ce n'est qu'une machine. Ce n'est pas une réflexion humaine derrière et que finalement, les personnes vont perdre leurs compétences. Et le danger, il est ici énorme. Il est aussi important dans le sens où un outil, ça devient finalement ce que l'on en fait. C'est comme un couteau. Un couteau, c'est extrêmement utile. On en a besoin pour cuisiner, on en a besoin pour des tas de choses. Mais ça sert aussi pour certaines personnes à tuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette intelligence artificielle, finalement? Est-ce qu'on s'en sert pour tuer ou est-ce qu'on va s'en servir au quotidien simplement pour soutenir dans des tâches que l'on serait quand même parfaitement capable de faire sans, mais simplement pour gagner du temps tout en étant conscient des limites de cette intelligence artificielle? Puisque quand on l'essaye, on s'aperçoit qu'on peut arriver à lui faire croire qu'un chat a cinq pattes. Qu'on peut lui faire dire des erreurs volontairement et qu'elle en fait aussi beaucoup involontairement. C'est donc un outil imparfait, qui continue d'apprendre, bien sûr, et qui finalement n'est pas si utile que ça dans certains domaines, parce que ça s'arrête à 2021 et que le monde change énormément, surtout ces 20 dernières années. Il bouge beaucoup, il bouge encore plus vite qu'avant. Je dirais, surtout en matière numérique. C'est ce qui fait que, finalement, ça peut être quelque chose d'utile selon la manière que l'on a de s'en servir. Le plus inquiétant, c'est aussi le côté éducatif. Vous avez des enseignants qui ont repéré des devoirs à l'allure un petit peu bizarre, qui ont découvert qu'il était réalisé avec ChatGPT. Sauf que dedans, eh bien, on retrouve une manière de s'exprimer extrêmement bateau, sans aucun style, certes, sans aucune faute d'orthographe ou presque, puisque je l'ai déjà vu en faire, et des réflexions qui finalement n'appartiennent pas aux jeunes. Alors, encore une fois, il y a la manière de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait accepter l'utilisation de ChatGPT au cours d'une formation, qu'elle soit universitaire ou même avant, à condition que le jeune en question soit autonome dans sa façon d'apprendre et de travailler avant. Vous avez une problématique sur les jeunes qui ne sont pas formés à ça et qui vont confier finalement tout le travail à l'outil. Et le jour où on va leur demander sur une table d'examen de réaliser un exercice similaire, ils en seront absolument incapables. Et on va se retrouver avec des jeunes en échec scolaire total à cause de ça. Le jour où ils n'auront pas accès à cette intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont pouvoir peut-être réussir des concours qui vont finir par se tenir en ligne, par écrire des choses extraordinaires, riches et tout ce que l'on veut avec une intelligence artificielle un peu plus avancée encore que ChatGPT. Mais finalement, la personne qui sera derrière, elle sera comme une coquille vide. Vide sans ChatGPT. Alors, qu'est-ce que l'on en fait? Est-ce qu'on demande à ce qu'elle soit détruite? Est-ce qu'au contraire, on essaie de l'améliorer pour que la réussite de ces jeunes soit totale? Ou est-ce que plutôt que d'en avoir peur ou autre, on finit par apprendre aux plus jeunes à s'en servir correctement et à leur rappeler à quel point il est fondamental d'être autonome avant de confier des tâches à cet outil-là?
Bonjour à tous, bienvenue à Polysécure sur la 300e. J'ai pas le droit de le dire, mais comme je casse encore les règles et que c'est on recommence, Nicolas est pas très très loin de moi, donc comme ça il va me permettre de...
Je surveille, mais j'aime ça quand tu brises les règles.
Voilà, il me surveille parce que c'est toujours un temps. Nicolas nous a apporté cette idée de vous parler de l'IA et de ChatGPT pour cette 300e de Polysécure et qu'est-ce qu'on pouvait éventuellement préciser assez rapidement. Évidemment, on est à peu près entre, allez, un gros 10 minutes, entre moins et plus pour en discuter. Est-ce que tout ça pouvait nous apporter comme futur à ce niveau-là? D'entrée de jeu, je vous dirais que quand j'ai évidemment appris comme tout le monde que Chat évidemment sortait de manière générale Evability en novembre. J'avais déjà, et on a tous plus ou moins de toute façon depuis ces 5-10 dernières années travaillé de près ou de loin sur de l'AML, hein, de la machine learning ou sur de l'AI au sens large. Alors l'AI, évidemment, est-ce qu'on parle de l'AI sur des chatbots, de l'AI sur du content generation, de l'AI sur du meeting, du personnel productivity, de l'audio, hein. Attention, encore une fois, faut évidemment remettre les contextes là où il se doit. Et évidemment, au niveau des works, il y a évidemment beaucoup de sujets. Hein. Les sujets sur les synthetic voice, les sujets sur les vidéos, les sujets sur l'audio, l'image generation. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur LinkedIn aujourd'hui. On voit que et ça peut être drôle ou ça peut être évidemment sympa de redonner vie de manière 3D à Epic Tech, aux grands penseurs grecs, aux grands penseurs de la génération d'avant Jésus-Christ, ou en tout cas de la génération des gros historiens en fait existants. Ça, je trouve ça évidemment intéressant. Maintenant, le moins intéressant, ou en tout cas la chose qui moi va me rendre évidemment beaucoup plus dubitatif à ce niveau-là. Et c'est un petit peu aussi les coups de gueule que j'ai eus ces derniers temps, c'est qu'avant que ChatGPT arrive en version, ou en tout cas en génération 4, là, et en même temps en ayant bougé plus ou moins les choses, c'est la notion que ça a quand même été un des plus gros vols de données de cette 30 ou 40 dernières générations d'informatique. Et tout le monde a applaudi aux grandes dames, hein, un petit peu comme quand Facebook est sorti pour dire on va faire des... hein, je vous rappelle que Facebook, quand il est sorti de l'université, c'était pour cadrer et coder la notion des filles. Est-ce que les filles étaient super cool, bonnes, belles et tout ce qu'on veut? Donc là, pareil, on se dit, ah bah tiens, ils ont fait des data lakes, on a pris pendant 6 ans tout ce que faisait Internet depuis la dernière année. Et on n'est pas encore branché, mais on a récupéré le tout, sauf que effectivement, pas de source de données, pas de prix payé, pas de droit d'auteur donné, pas de droit de licence vérifié. Et puis tout le monde applaudit parce que tout le monde permettait d'avoir le boulot de chacun et compagnie. Donc ça, faudra quand même se poser la question, et je pense que c'est ce que je dis, je vais pas le révolutionner en un polysécure de 10 minutes et dans un point, mais puis là, je le fais un peu moins peut-être grande gueule que je l'ai fait dans une dernière présentation que j'avais fait au Q7, mais honnêtement, je trouve ça comme étant aberrant que personne n'ait voulu, on va dire... un minima légalisé ou un minima sécurisé cette histoire, parce que la notion de droit d'auteur, c'est notre vie au quotidien, les codes sources, les blogs, du podcast possible, et j'en passe, et des meilleurs. Je pense que vous avez tous vu passer il y a 3-4 semaines aussi que quelqu'un avait sorti même une chanson via deux rappeurs qui étaient mutés et puis qui étaient dans le même style de musique, et en fait c'est sorti par un bot ou en tout cas un génératif audio qui a fait les mêmes musiques que ces gens-là. Mais ces gens-là n'avaient rien fait et n'avaient rien géré. Pareil aussi, il y a une histoire, alors elle n'a pas été tout à fait complètement corroborée, mais aussi des équipes d'une start-up sur du développement voulant évidemment utiliser Chat pour surtout sur Visual Code, pour évidemment être corrigé ou comprendre des choses, puis balancer évidemment le code pour dire hey, pourrais-tu me dire comment on pourrait mieux factoriser, ou j'ai un bug, je ne comprends pas, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Puis sachant ça, bah, les gars ont mis de plus en plus de code, puis des gars de l'équipe ont décidé, bah, maintenant qu'on a mis le code, puis qu'on sait à peu près comment aller le récupérer pour aller reposer la question, ils ont démissionné de la boîte et ils ont remonté évidemment la boîte d'à côté pour se dire, bah, on va reprendre évidemment le code de ce qu'on a dit dans tel point pour aller le ressortir et se dire, bah, nous, on a refait, puis on l'a recadré différemment, puisqu'en fait, les variables ont été réécrites autrement, la chose ont été réécrites. Et encore une fois, droit d'auteur, les gars ont levé des fonds, ouais mais c'était pas à eux, qui, donc l'autre a attaqué l'autre boîte, enfin bref, vous imaginez bien tout ce que ça peut évidemment comporter comme problème. Donc je pense que de manière, comme l'ont fait les États, mais ça a pris du temps, hein, on a mis 10 ans au Québec je crois, ça fait 15 ans qu'on en parle comme Netflix, Disney et autres pour dire est-ce qu'on paye les taxes quand on vient évidemment les consommer au Canada, puis que ces gens-là sont... dans des boîtes offshore, dans des endroits offshore, et qu'ils payent pas les taxes ou les corroborés à ce niveau-là. Donc, encore une fois, il y aura un choix de se dire est-ce que le juridique se passe aux États-Unis, hein. C'est comme la monnaie, hein. Je vous renvoie aussi, tiens, je refais un petit peu de pub pour le Bitcoin et le Secure, mais c'est comme la monnaie. Les lois de la monnaie, si on positionne sur le dollar, bah, l'intégralité de ce qui se passe et les transactions monétaires internationaux se passent et internationales se passent au travers du dollar. Donc, le juridique se passe au travers, évidemment, des Américains. Parce que l'IA est américain au complet, bah c'est un peu comme le Splinternet que je disais. C'est l'invention pour à peu près 80% d'entre eux américaines. Où se trouvent les data centers, où se trouvent les données, où se trouve la position évidemment des data. Encore une fois, c'est aux États-Unis qu'il faudra aller peut-être se battre avec tout ce que ça comporte comme prix, comme coût et ainsi de suite. Donc tout ça faudra quand même de manière assez vaste de le gérer et de dire que même quand on voudra un copilote ou on voudra, peu importe, security ou GitHub ou qu'on voudra faire des choses voulues, est-ce qu'on est sûr que copilote en termes même d'un repo privé, est-ce qu'il va pas le filer dans un repo public? Comment il va gérer les droits d'auteur, ou là, s'il y a des vrais droits d'auteur ou de propriété intellectuelle, comment on peut le préciser au niveau de ces propriétés intellectuelles? Donc, il y a quand même encore une fois des questions éthiques et morales à se poser, ce qui est le plus important. Et puis, en même temps, et ça, c'est la deuxième phase des points, c'est, on en parlait juste un peu avant l'enregistrement avec Nicolas, c'est la notion des générations. La génération copy-paste, le gars qui avait pas son Google ou son Internet, bah, développé from scratch, c'était plus facile d'aller trouver les choses sur le net. On a la génération Stack Overflow, hein, on sait que l'MIT a encore sorti, il y a pas si longtemps que ça, une demande où, à l'aube de 2025-2026, il estime que sur les, je sais plus combien de millions, hein, c'est 900 millions d'applications mobiles, tout confondu, mais déjà Android, c'est grosso modo 70% de copies total d'applications, de choses qui font la même chose et que n'est pas corrigé, n'est pas contextualisé, n'a pas été vérifié, n'a pas été géré. C'est pas Google ou Apple avec la masse que ça génère, ou dès qu'il y a évidemment tous les problèmes de malware et compagnie qu'on sait, donc ils peuvent vérifier tout ça. Ils ont beau avoir tous les systèmes du monde, peut-être que là l'IA pourrait être éventuellement super utile, si voilà, pour le coup, pour une fois. Mais donc ça sous-entend en même temps qu'on va faire quoi? On va faire une génération de développeurs ChatGPT ou IA, c'est-à-dire que le développeur va être payé quoi, 120 000 dollars, mais il aura bossé qu'une heure et puis il aura sorti son petit truc avec Chat et qu'il aura dit tiens, je voudrais faire un front-end React machin, puis que l'autre il lui a sorti, puis qu'il a juste deux trois trucs à corriger. Donc ça sous-entend quoi, les gars? Ça sous-entend qu'on vous paiera maintenant que 40 000 dollars parce qu'on faudra qu'on paye le bot à l'origine. C'est là où il va falloir aussi faire une distinction, parce que est-ce qu'on doit vous payer autant à six chiffres pour éventuellement utiliser juste ChatGPT ou juste le copilot qui est derrière? Je suis pas certain que le propriétaire de l'entreprise ou que la société qui décide de payer le gars veuille payer éventuellement une intelligence artificielle. Sinon, à la limite, vous devenez, entre guillemets, puis je veux pas être péjoratif dans ce que je vais dire, mais vous devenez, comme je dis souvent, une secrétaire de luxe ou une personne d'utilisation bien avancée de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, les concepts de PO, les concepts de langage, les concepts de gestion, de développement, d'architecture et compagnie. Donc, c'est là où, à partir de là, les frontières vont commencer à se faire et les pertes, effectivement, d'emploi ou de valeur sont évidemment importantes, à moins que vous étiez ou vous êtes un développeur de ces génératives AI. Mais est-ce que vous en êtes pas tous? Donc, automatiquement, c'est ça qui va permettre d'avoir un vrai fossé entre ceux qui vont savoir ou pas, de ceux qui vont connaître les concepts ou pas, de ceux qui vont aussi peut-être être les fameux 1, 4, 5% qui vont reprendre éventuellement en disant tout ce monde-là ne m'intéresse pas, puis recréer éventuellement les IoT hacking, on repart sur l'essence même du point, puisque l'IA il pourra pas être sur le edge ou sur du IoT, il pourra pas être sur des développements cloud privés ou publics parce que il y a des endroits où il faudra connaître les concepts. Donc toutes ces affaires-là, faudra faire attention de dire oui, j'utilise toutes mes questions de CV aussi quand vous faites évidemment genre une amie Caro va apprécier la blague, mais bah tiens, je suis interrogé lors d'une rencontre, est-ce que j'ai mon ChatGPT à côté pour poser des questions, pour bien répondre éventuellement comme le veut le gars qui veut m'embaucher? Est-ce que le gars va faire des tests pour savoir qu'une question peut être reprise par IA? Il n'y a pas que les profs, évidemment, dans la génération aussi des nouveaux cégeps et des nouvelles universités à faire que ce sera l'IA qui va répondre sur les gros trucs. Est-ce que les doctorats vont faire que le docteur va plus être un docteur parce qu'il y aura la moitié de son truc qui va être corrigé ou fait par l'IA? Donc c'est ça qui est le plus compliqué, parce que l'être humain par défaut va quand même être c'est pour retourner comme un blob ou être à deux QI, ça va pas être drôle hein, si on va être là pour être gavé. Méfiez-vous de pas être la matrice à dire ok, c'est pas pour l'énergie ou pour la chaleur qu'on défait, mais pour juste simplement se faire gaver comme des oies et puis de dire on est complètement débile, mais il y a un moment donné, il faut quand même faire la job. Et c'est qui fera la job pour rendre les autres un peu comme des moutons? Enfin bref, c'est là où il faut faire quand même cette introspection à soi-même, parce que je crois qu'en fait, c'est chacun qui doit le gérer en tant que personne, et puis ensuite en tant que groupe, et ensuite en tant que génération de contexte, hein, entre celui qui va être développeur, celui qui va être la sécurité, celui qui va manager. C'est sûr que ça apporte évidemment de la souplesse, de la vitesse, de la vélocité sur d'autres affaires. Des fois, quand on voulait éventuellement sortir une start-up sur une idée, ça devait prendre 1, 2, 3 tours de table avec des gros millions de dollars, avec des grosses personnes. Peut-être que là, une équipe bien manipulée, bien gérée. Encore une fois, c'est comme tout. Vous pouvez avoir une Porsche et rouler quand même à 140, mais pas rouler à 220 et toujours avoir une belle voiture. C'est ce que je veux dire. C'est de l'utiliser a fortiori dans le bon point et dans le bon sens. Est-ce que l'être humain va le faire? Je suis pas certain au vu de tout ce qui s'est déjà fait en informatique, malheureusement, et dans tous les sujets qui ont été évidemment des sujets chauds. Et ça en fait partie, parce que évidemment, on va les retrouver. Là, j'ai sorti quelque chose pour la petite capsule en faisant que la générative tech maintenant est sortie. Donc là, on a une générative tech qui évidemment prend évidemment une market map, hein, et il y a 5 layers sur les tech stacks en fait qui vont évidemment exister. Il y a l'applicatif, il va y avoir l'OS et les API, il va y avoir les hyper local et les AI modèles. Donc là, il y a une nouvelle génération de layers qui va arriver pour dire comment on crée des modèles AI, parce que dites, c'est pas de la magie, hein, il y a pas de synapse, le gars sait pas encore réfléchir soi-même, hein, je vous rappelle. Il lui faut beaucoup de données avec des modèles algorithmiques, et ces modèles algorithmiques doivent être trainés, et c'est ces modèles trainés, comme le Yama, comme peu importe après les modèles qu'on utilise. Et ces modèles-là sont des modèles non réinventés, hein, c'est des modèles existants plus ou moins gérés. Alors j'ai pas dit que ces modèles n'étaient pas compliqués, mais je veux dire que c'est quand même des modèles algorithmiques et mathématiques qui sont gérés, avec du spécifique AI model. Donc maintenant, on va avoir du hyper local et des AI models de base, puis après, il va y avoir du spécifique selon les contextes des gens, pour ensuite avoir du général AI model, pour dire, bah là, on laisse à monsieur et madame tout le monde, pour dire, je sais pas, tiens, tu veux faire ta liste d'épicerie, ou tu lui donnes ce que t'as dans ton frigo, il va te sortir ta recette, ou je sais quel truc généraux. Mais à aujourd'hui, ces markets-là se retrouvent évidemment, et c'est ça qui est important, c'est que pour tout ce qui est les operating systems, les API systems, c'est ce qui est le plus gros, puisque évidemment, c'est là où il y a encore une fois les data centers, les clouds publics et autres choses qui doivent le gérer, au-delà de l'application, parce que là, lui, il est dans le 4. Mais le général model, c'est le 1. Le spécifique model, c'est le 2, parce qu'il est trainé, et surtout la data est narratée, en fait, donc avec du général. Et le hyper local AI, c'est trainé en local, et ça va être encore de la data propriétaire. Donc on revient, encore une fois, dans les anciens systèmes en se disant « Ouais, elle est où ma data ?» Ah bah oui, effectivement, t'es dans l'hyper local, donc on va demander éventuellement à la générative d'être sur place, donc data center dans les pays, encore une fois, la souveraineté des pays, la souveraineté des frontières, la souveraineté évidemment des data, parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'aller, je sais pas moi, admettons que c'est une société de fonds d'action ou de fonds d'assurance ou de fonds d'investissement, même s'ils ont des tonnes de choses et compagnie, déjà eux, en tant que tels, ils font des VM recordés, machin, avec toutes des choses à l'intérieur. C'est pas pour autant de mettre tout ça dans un data lake public ou non public et puis de dire, vas-y, traîne-toi et fais-toi plaisir. Donc, c'est encore une fois dans un état d'esprit de le gérer. Donc, ça aussi, il faudra se poser les questions à savoir les coûts, qui va le faire, comment on va le faire. Comment on bascule un modèle. Donc, tout ça est compliqué en même temps et à la fois simple, parce qu'on se dit, bah ouais, mais il pourrait nous aider à faire du dog food. Ouais, mais le dog food, au démarrage, faut quand même connaître le concept en tant que tel aussi. Ça, c'est un peu le problème. Et puis, en même temps, il y a aussi l'intégralité des contextes que je vous ai précisé. Aujourd'hui, tout le monde sait évidemment émoustillé sur ChatGPT, mais c'est du chatbot. Donc, c'est de la conversation, c'est de la récupération. Alors oui, c'est de la conversation un peu plus poussée. On peut lui filer du code, on peut lui filer de la narration, on peut lui filer du texte, on peut lui filer des poèmes, des machins. Enfin bref, je vais en passer des meilleurs comme un chat, en fait, tel qui est fait. Mais en même temps, on a du content generation. Vous avez Jasper ou Notion qui se sont lancés là-dedans. Vous avez du spreadsheet, vous avez les meeting recording, vous avez les personal productivity, vous avez audio editing, image generation, Slack deck, chat with PDF, et vous avez du Synthetics Voice. C'est à peu près les contextes à aujourd'hui, mais on a quand même une grosse dizaine. Et tout ça, évidemment, est mélangé. Adobe est là pas mal d'endroits. Évidemment, on a toujours OpenAI qui est pas loin, mais en chatbot Bing ou les moteurs de recherche comme Bard et compagnie sont là. Je vous rappelle d'ailleurs, si c'est bien confirmé, mais un des gars de Google a dégagé de chez Google tellement qu'il a peur de ce qui a été mis en place. Donc je rappelle quand même que quand le gars, déjà, c'est la première fois hein, qu'on voit un gars qui, même en cours de route, fait le truc en disant « Ouais, non mais là, la vision que vous voulez, moi, ça me fait trop peur, je dégage. » Si vous regardez Social Dilemma que je parlais dans Speed Internet avec évidemment la partie privacy et avec justement Tristan Harris et compagnie qui ont fait le documentaire et sur Netflix au travers, et on entend le patron d'Instagram qui dit non, même moi mes enfants ont même pas le droit d'Instagram avant la majorité, que même moi je me suis dégagé de tout ça, ou que les gars qui ont inventé les algorithmes derrière Netflix, YouTube, peu importe, je dis Netflix mais c'est YouTube que je voulais dire, et puis Google, bah là quand vous voyez qu'un gars de chez Google en plus de chez Bard veut même plus être là, mais avant même que l'outil est fait, je pense qu'il faut se poser des questions et peut-être aller un peu plus loin dans la démarche, parce que ces gars-là ont déjà fait des démarches que même nous on n'a pas encore fait, puisque c'est eux qui l'ont mis en place. Donc ça sous-entend que par défaut on est peut-être un petit peu dans les problématiques. Et en même temps, pour finir, parce que le landscape évidemment est important au niveau des applications, au niveau du point, c'est que entre le texte, la vidéo, le code, l'image, la 3D, le speech, c'est ce qu'on a dit. La notion aussi maintenant au niveau de la partie et de l'aspect sécurité, bah là, l'aspect sécurité, on prend un coup, encore une fois. Parce que là, c'est le phishing. On n'aura jamais autant aussi bon de phishing que fait par évidemment un AI qui va... Là, les problèmes de langue se retrouvent même plus. C'est presque à la limite trop bien écrit et trop bien fait. Il faudra faire l'inverse au lieu que quand on regardait les algorithmes de phishing, quand ils parlaient un peu comme une vache espagnole, comme on dit quand ils voulaient parler français, ben là on arrivait encore à faire les trucs. Mais là, pour le coup, c'est presque même quand il y aura même plus de fautes, c'est se dire et se poser la question, est-ce que c'est vraiment un humain ou un robot qui le génère? Donc le phishing, les notions de social engineering vont être encore plus ciblées, beaucoup plus faites, parce que là, pour le coup, on parlait d'hyperlocal. Mais qui pourrait pas faire? On a du Maltego, mais demain, un Maltego à la mode hyperlocale en mode IA, bah, ça sous-entend que là, le targeting de sa cible va être encore beaucoup plus traîné, beaucoup plus connaissant, beaucoup plus géré. Donc, ça sous-entend aussi que la notion des patterns, des mots de passe pourrait aussi en jouer un peu. Donc, attention. Et puis, en même temps, après, bah, c'est les notions où, comme on a du son, bah, les procédures aussi au niveau de reconnaissance vocale, facile. Reconnaissance faciale, bah, il est capable de générer du H et de faire la même chose. Pas facile non plus. Ok, on n'a peut-être pas la notion de la partie digitale, mais la partie digitale, si ça fait un peu plus de 3D, puis que ça commence, je pense que là aussi, ça va générer d'autres aspects. Donc, c'est tous ces aspects-là qui, pour nous, en termes évidemment de gestion de protection en tant que telle sur la notion d'une entreprise, de ce qu'on doit évidemment protéger, de comment on doit le protéger, et je parle même pas du, et c'est ça qui est en plus dommageable, parce qu'on doit aussi surtout se protéger de l'intérieur, parce que la personne qui évidemment va travailler, puis pas spécialement dans la technique, mais dans la notion de, je sais pas moi, M365 at large ou Google at large, va décider éventuellement demain de dire, tiens, j'ai un gros truc à faire avec une sorte de je sais pas quoi, de retour de, allez, admettons, d'un document de résultat de performance sur je sais pas quoi, puis qu'elle doit mettre des tonnes d'informations de l'entreprise. Là, la DLP, on la fait comment? T'es sûr que tu y as donné de l'IA interne? T'es sûr que tu l'as filé où, là? T'as donné quoi, ton CSV, là? T'as donné un CSV, un fichier Excel, une base de données? Ah, bah oui, bah, je me suis connecté à un tel, machin. T'sais, on parle même plus de mot de passe, là. On parle carrément des datas qui sont mis où le type aura le droit de l'extraire et puis éventuellement de le gérer de cette manière. Tout ça laisse évidemment, je peux comprendre qu'il y a un gros système de marketplace qui est pris, hein. Il faut savoir que c'est l'équivalent, ça n'a jamais été autant exponentiel en tel de market cap, c'est pour ça aussi que tout le monde y va et que je disais à Nicolas à l'instant, que regarder les extensions Chrome, regarder les applications GPT, regarder sur les marketplaces de Visual Studio, Visual Code et compagnie, il n'y a jamais eu autant d'explosions qui a été fait en moins de 5 mois. Je vous rappelle d'ailleurs qu'ils se targuaient, hein, quand ça s'est arrivé en novembre, ils disaient que certaines sociétés avaient mis, pour avoir 1 million d'utilisateurs, ils avaient mis des fois 10 ans ou 5 ans, et lui, il a mis 1 mois. Donc, on voit le ratio. Vous voyez le ratio de l'humain ne peut pas suivre. Je veux dire, un ratio de telle notion fait que c'est un ratio d'abyssal qui fait qu'à un moment donné, ça voudra dire qu'il va falloir qu'on fabrique aussi des robots pour contrer le robot. Mais il faut contrer le robot avec le même robot qui contre le robot. Donc, à un moment donné, on rentre dans, vous savez, l'effet tube miroir, hein, où on se voit soi-même, puis qu'il n'y a jamais de fin. Donc, c'est là où on se dit, mais attends, je deviens débile là, parce que c'est comment que je vais faire? C'est du récursif à l'infini qui fait que le robot va tuer le robot, mais qui va tuer le robot, mais qui fait? Donc, il faut qu'en tant qu'être humain, on arrive à vraiment se poser la question réelle de savoir qui fait quoi, à quel endroit, de quelle manière, et d'être raisonnable. Donc, de pas demander non plus un arrêt comme là les 6 mois qui ont été demandés parce que ils ont décidé de se dire, ah bah oui, mais nous, on n'était pas encore prêts, mais parce que bon, encore une fois, on a deux poids de mesure en se disant, vous demandez un arrêt parce que vous n'étiez pas prêt et que vous vouliez être prêt et récupérer le pognon, ou vous voulez vraiment demander un arrêt parce que vous avez vraiment soi-disant peur pour l'humanité. Bon, malheureusement, ça aussi, c'est encore très, très limite dans la demande, là, parce qu'évidemment, c'est pas clair, et que ces gens-là, en plus, quand c'est Elon Musk qui lui-même a foutu le pognon pour faire OpenAI, bon, bref, on se demande s'il marche pas sur la tête, là-bas, encore une fois. Donc, c'est toutes ces, et puis, en plus, comme je disais à Nicolas, encore une fois, avant le truc, c'est de dire que ça sort en novembre et Microsoft fait 10 milliards d'achats en janvier. Je sais que Microsoft a les moyens, mais, et vous savez que je suis bébé Microsoft, mais sortir 10 milliards en 2 mois, faut arrêter les bêtises, hein. Tout ça est prévu, tout ça est géré, tout ça est déjà orchestré depuis très longtemps. Cette boîte-là n'a pas pu travailler 8 ans ou 10 ans sans avoir des tonnes et des tonnes d'argent. Vous imaginez ce qu'il a fallu comme développement pour en arriver à déjà la taille des données qu'ils ont dû avaler et aspirer. Puisque Google, on estime que ça a mis presque 10 ans pour presque avaler 80% d'Internet. Vous imaginez la masse d'informations qu'il fallait croiser, la base de données concurrentielle qu'il faut gérer, ou la base graph qu'il faut mettre en avant. Là, c'est une vraie base de données graph pour mettre en avant les affaires, les DBA, les algorithmiques qu'il faut dans ces gens-là qui font du PhD et qui sont payés une fortune, surtout aux États-Unis. Donc, bref, je veux dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de notion où il voulait aller. Je pense que c'est la nouvelle partie qu'il fallait, donc faut pas évidemment la prendre contre. C'est pas ce que je dis, mais je pense que celle-ci, à la différence de tout le reste, c'est que là, on commence à mettre le doigt dans le tordeur, où on est en train de mettre un doigt où on pourrait devenir vraiment des causes perdues en tant qu'humain, si évidemment on peut arriver à appuyer sur un bouton, et qu'à un moment donné, le training fait que la notion de synapse existe. Méfions-nous de ne pas non plus prendre trop, de largesse avec ça, en pensant que ça ne peut que nous aider. Au début, ça peut être sympathique, mais à la fin, ça peut être dramatique. Et c'est là où, à partir de là, on parle de santé mentale, mais ça passe justement à se dire, est-ce qu'on veut se réfléchir pour un bot? Puis, pour finir, vraiment, et je veux que vous puissiez éventuellement prendre en compte ça, c'est comment on paye un bot? C'est quoi le paiement du bot et à qui on le paye? C'est quoi le boulot du bot? Je disais tout à l'heure, est-ce qu'un gars payé 6 chiffres va redescendre à ses 40 000 balles parce qu'il va faire? Mais quand même, après coup, même si on le payait encore, mais qu'on lui dise, bah écoute, oui, mais le gars qui a créé le bot, il va vouloir aussi l'argent à la limite, ou qui crée le modèle va vouloir l'argent. Est-ce qu'on change aussi la nature de cet argent en se disant, bah maintenant que les mecs créent les modèles, c'est eux qui sont les dieux pères? Est-ce que c'est eux qui doivent avoir le pognon là-dessus? Donc, ça va pas être fini. Je pense qu'il y a des grosses discussions, autant sur le côté technique que sur le côté éthique que sur le côté réflexion. Je suis pas certain que j'ai les capacités intellectuelles non plus en termes de PhD, en termes de gens qui ont cet raisonnement ou de tous ceux qui ont fait les bots de gérer. Mais je crois qu'il y a vraiment une situation à faire que ne soyons pas comme on l'a toujours été avec les nouvelles inventions, les nouveaux trucs ou les réseaux sociaux qu'il a fallu n'allons pas jusqu'à un réseau social qu'on a décidé que Facebook était, du jour au lendemain, on a compris que c'était Cambridge Analytica, que c'était de la grosse merde, que c'était tout compte fait, on avait déversé tout notre truc. Puis que là, maintenant, on va sur Instagram ou sur Messenger, mais Instagram, c'est quand même Facebook de l'autre côté, mais on recommence un peu une partie, mais on fait attention à ce qu'il en est. Ou que Twitter, c'était pas ce qu'il en est, mais là, on va le laisser à un gars qui veut aller sur Mars, mais tout en étant à tweeter sur des martiens, là. Bref, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on soit pour une fois, maintenant qu'on le sait, maintenant qu'on sait les choses, maintenant qu'on a quand même 30 ans derrière nous, 40 ans derrière nous, et puis 10 ans derrière nous de cloud et de gens qui ont de la nouvelle éducation réseaux sociaux, est-ce qu'il serait pas temps de prendre aussi notre position en main de notre droit privé, qu'on n'est pas encore une fois à refaire le jour de la marmotte. Oh, mes données privées, oh, mes machins, oh, je suis devenu con, oh, je sais pas faire coder, oh, je fais du copy-paste, machin. Donc, de le faire dès maintenant, on le sait. Donc, désormais, de dire, moi, on vous voit, on l'utilise, on va le faire, mais de manière beaucoup plus sécurisée. Moi, c'est mon point, je le ferai de telle manière à titre professionnel. À titre privé, effectivement, moi aussi, je l'utilise pour m'aider sur des points, mais ça sera un outil et non pas une fin en soi. Et ça, je pense que si c'est, ça doit être le mot de la fin, je pense que c'est un beau mot de la fin. C'est pas le fin en soi, mais c'est un outil qui doit être utilisé à parcimonie et en faisant attention à ce qu'on fait à ce niveau-là. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que tous mes autres collègues pourront vous apporter aussi d'autres visions à ce niveau-là. Et je remercie Nicolas de cette belle idée. Je trouve qu'en mélangeant un petit peu tout ça, ça va sûrement faire un beau podcast d'idées hautes. Je serai le premier à l'écouter, à des fois me réentendre. J'aime pas spécialement toujours ça, mais là au moins de pouvoir faire. Mais en tout cas, merci. Et puis, on se revoit une prochaine. On a déjà prévu avec Nicolas de parler au Polysécur. Donc, à très bientôt. Bye bye.
Bonjour Nicolas Loïc et à toute l'équipe du Polysécur. Avant tout, je tiens à vous remercier pour m'avoir proposé de contribuer à ce sujet passionnant sur ChatGPT et les IA génératives. Et un grand bravo à vous pour ce 300e épisode. Voici mon point de vue par rapport à ces technologies qui ont un impact considérable sur nos organisations et sur notre société, et je dirais même sur notre perception de la société. Pour moi, ces technologies et les outils qui sont développés, comme par exemple ChatGPT ou bien encore Midjourney, traduisent à la fois un progrès considérable et une révolution fascinante, voire époustouflante, mais aussi quelque chose d'insaisissable et quelque part d'effrayant. Pour ce qui est du caractère fascinant et époustouflant, c'est que cette révolution, en tout cas la manière dont elle résonne chez moi, c'est qu'elle montre encore une fois la capacité de l'humain, et donc du cerveau humain, à penser et à développer des technologies, des outils et ainsi de l'innovation. Cette innovation est particulièrement intéressante pour accompagner et soutenir certains secteurs d'activité, comme par exemple celui de la santé. J'y vois donc des outils nous permettant demain de traiter plus vite des informations, de réaliser plus rapidement des missions. Et finalement, j'y vois des outils au service de l'humain pour le préserver, le protéger. À travers ces technologies, l'humain se dépasse. C'est cette capacité d'innovation de l'humain qui est particulièrement fascinante pour moi, que quelque part, j'admire aussi. Pour le caractère effrayant, il se traduit par le fait que ces technologies sont malheureusement mises dans les mains de tous, sans réelle sensibilisation et sans que l'on ait le temps d'en saisir les enjeux, les risques et les vulnérabilités. Ce sont plutôt des technologies joujoux, et donc des jouets, que l'on met à notre disposition et qui participent dans un même temps à nourrir, par exemple, des campagnes de désinformation, mais aussi à la baisse de nos capacités cognitives. Il va donc devenir très difficile de déceler le vrai du faux, et c'est déjà le cas. Finalement, elles traduisent pour moi une espèce de réitération de la génération crash test. Et lorsque je parle de réitération de la génération crash test, je fais notamment référence au lancement en 2008 de Facebook. C'est-à-dire que la majorité s'est jetée sur cet outil qui était, il est vrai, une véritable révolution, car il nous permettait de communiquer avec des personnes à l'autre bout du monde, de prendre ou de reprendre contact avec des personnes. Et finalement, sur le papier, l'outil était plutôt quelque chose de fantastique. Malheureusement, nous n'avons pas su apprécier les risques et les dangers à l'époque. La raison est que nous n'avons pas été préparés. En effet, on a exploré, on a testé, on a dévoilé des informations personnelles, des contenus divers et variés. Bref, on a fait tout et n'importe quoi. C'est par la suite que nous avons notamment découvert les effets pervers, par exemple lors du scandale Facebook Cambridge Analytica. Rappelons-nous à l'époque que la société Cambridge Analytica a collecté des données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement et dans un but bien précis. Le but était d'influencer les résultats des élections américaines, ce qui a mis à mal nos principes démocratiques. Depuis, que s'est-il passé concernant notre rapport aux technologies et aux outils? Quelque part, nous recommençons les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on nous met à nouveau à disposition des outils de plus en plus puissants, puis on nous alerte. Pourquoi ne pas faire l'inverse? C'est-à-dire alerter, sensibiliser, puis mettre à disposition les outils, plutôt que de nous laisser explorer sans filet de sécurité, plutôt que de nous laisser tester, plutôt que de nous laisser dévoiler des informations, plutôt finalement que de nous laisser demander tout et n'importe quoi sans réel sens. Avec ChatGPT et les IA génératives, quelque part nous nous amusons. Mais à quel prix? Nous alimentons inévitablement ces outils tout en nous offusquant dans un même temps sur la désinformation et les fake news. Quand je dis que nous recommençons les mêmes erreurs, je veux dire par là que nous sommes à peine, voire pas du tout pour certains, sensibilisés, conscients, responsabilisés et responsables par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Il devient donc urgent de prendre conscience que nous n'en faisons pas tous le même usage et la même utilisation. Nous le savons, le progrès entraîne aussi des effets pervers. Il n'y a qu'à le voir et il n'y a qu'à le constater avec l'apparition d'Internet. C'est-à-dire que de ce progrès et de cette innovation, il y a eu une appropriation différente par des gens qui cherchaient à contourner le sens de cette innovation et qui ont contourné le sens dans leur propre intérêt, qu'ils soient financiers, idéologiques et criminels. C'est en cela que je dis que l'on vit un éternel recommencement, mais qui se veut de plus en plus intense et amplifié du fait de ce que nous avons traversé ces dernières années. Une pandémie, l'apparition de la désinformation, des guerres informationnelles, des crises diverses et variées, l'apparition d'une défiance envers nos politiques, un épuisement général, des guerres et la continuité de guerres. On le sait, tout s'est accéléré avec et par la pandémie de Covid-19. Au moment où nous pensions reconsolider nos liens, repenser nos manières d'imaginer le travail, de voir le futur de manière plus raisonnée et responsable, on nous remet du flou, de l'inconnu et de l'incertitude entre les mains. Alors, bien sûr que l'innovation est utile et nécessaire, car le cerveau humain ne peut pas en effet tout analyser ou bien tout gérer. Face aux enjeux actuels et futurs, qu'ils soient économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux par exemple, l'innovation et ses outils peuvent, selon moi, être utiles et sont les bienvenus. Malheureusement, et du fait de la manière d'introduire ces outils et ces technologies, je ne parviens pas à percevoir que l'innovation, finalement, est mise à notre disposition pour nous préserver et nous protéger. Je crains même qu'elle nous dépasse. Pour moi, elle est évidemment déployée pour des questions d'ordre stratégique, économique et financière. Et surtout, je considère que les règles du jeu ont changé. C'est-à-dire que les acteurs qui les posent aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Les entreprises américaines, les GAFAM, etc., dominent à présent le marché par leur présence dans toute l'infrastructure d'Internet et du web. Il y a également l'apparition des entreprises chinoises qui sont de plus en plus importantes. C'est aussi en cela que nous vivons une révolution particulièrement déstabilisante que nous alimentons dans le même temps. Je terminerai sur le fait qu'avec ChatGPT et les IA génératives, on peut se questionner de savoir comment va évoluer l'homme et la société dans la mesure où les algorithmes prennent et prendront une place de plus en plus significative dans notre civilisation, dans le monde du travail et dans notre rapport aux autres. Je pense qu'il devient urgent de fournir un cadre pour préserver et protéger nos capacités humaines, cognitives, individuelles et sociales. L'enjeu repose sur le fait de parvenir d'une part à une prise de conscience générale et réelle, et d'autre part à trouver un juste équilibre entre le rôle des nouvelles technologies et celui de l'humain.